professeur de droit constitutionnel et il est venu spécialement pour la conférence. Mille merci, cher Georgios, de Karavokiris, de votre présence. Voilà, professeur de droit constitutionnel à Thessalonique. Il a fait sa thèse en France, à la Sorbonne. Puis nous avons un deuxième collègue qui nous vient d'étranger, qui est arrivé aujourd'hui, et directement de, ni plus ni moins, Sao Paulo, puisqu'il habite et travaille à Sao Paulo. C'est le professeur Edilson Bonfim. Alors lui, il est à la fois professeur de droit pénal, et en même temps procureur. Et au Brésil, il est très fréquent, effectivement, que les collègues aient deux fonctions. Une fonction publique et une fonction professorale. C'est son cas. Et donc, merci, Edilson, de votre présence. Et puis, je présente Madame Chélie Nippon, qui est spécialiste d'histoire des religions, qui est aussi spécialiste de politique américaine. Voilà pour ce panel. Merci de votre disponibilité, merci de votre temps. Alors ce soir, le thème de la conférence, il porte sur, premièrement, première entrée, une double entrée, l'entrée sociale et l'entrée territoriale. L'entrée sociale, c'est l'égalité entre femmes et hommes. Et il s'agit de questionner cette première entrée sociale en termes de progrès, de statu quo. Est-ce que ça progresse ou pas ? Bon, il y a aussi une entrée territoriale, les pays de la Méditerranée, la partie nord de la Méditerranée, sud de l'Europe, mais nord de la Méditerranée. Et la deuxième entrée importante, c'est l'entrée juridique. Ce qui m'a intéressé, c'est de demander à mes collègues de discuter, chacun d'entre eux et moi également, de discuter un cas. Nous allons prendre quatre cas méditerranéens qui sont remontés à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a obligé la Cour européenne des droits de l'homme à prendre position. Nous allons avoir, dans un premier temps, un cas qui est en cours, qui n'est pas rendu, qui concerne la Grèce, et plus précisément le nord de la Grèce, et la question qui se pose d'un statut spécial qui est accordé aux musulmans grecs depuis la fin de la Première Guerre mondiale comme un compromis organisé par la Société des Nations entre la Grèce et la Turquie. Donc c'est très intéressant. Un siècle plus tard, le traité de Lausanne de 1923 vient devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous aurons une deuxième affaire qui sera discutée par le professeur Bonfim et qui concerne le Portugal. Changement radical de décor. Nous passons de la Grèce au Portugal. Et là, nous avons une affaire de 2017, très récente, très moderne, qui concerne la question d'une erreur médicale et du traitement de l'erreur médicale par les juridictions portugaises, sachant que ce traitement a été extrêmement stéréotypé. Ensuite, nous aurons une présentation qui est relative à la France, et plus précisément à la question, j'ai pensé que c'était important, peut-être que ça ne l'était pas, à la question de la loi de 2011 sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Et cette loi a été attaquée par une requérante, une femme, qui souhaitait porter soit le niqab, soit la burqa, comme un acte d'autonomie personnelle. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dû s'interroger sur la question de savoir si c'était conforme à la Convention. Et enfin, je traiterai d'une affaire maltaise, de conférence. Quelques éléments, maintenant, pour parler du droit européen. Premièrement, pour dire que dans la Convention, il y a un article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se présente comme la grande clause anti-discrimination. Il est interdit de prendre des mesures discriminatoires fondées notamment, et c'est la première apparition, c'est le premier mot, fondée notamment sur le sexe. Et puis après sur l'âge, etc., fondée sur le sexe. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 n'est pas une disposition autonome. C'est-à-dire que l'article 14, il se comprend comme étant en relation nécessaire avec un autre droit de la Convention. C'est l'interdiction de discrimination dans le bénéfice des autres droits de la Convention. Notamment dans l'affaire Maltaise, dont je vous parlerai, cet aspect-là est assez bien mis en évidence. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un droit général à la non-discrimination, ou plutôt qu'il a fallu attendre 2000, c'est-à-dire les 50 ans de la Convention européenne, il a fallu attendre 2000 pour qu'il y ait une sorte de consensus au sein des États membres du Conseil de l'Europe pour adopter un protocole 12 relatif à un principe général d'égalité quand un droit est en cause, n'importe quel droit. Ces deux conceptions donc complémentaires mais bien différentes. Ensuite, et pour terminer cette présentation, la jurisprudence. Il y a les textes, il y a la jurisprudence. La Cour dit que, de façon générale, elle dit que il faut des motifs extrêmement élaborés, extrêmement importants, pour admettre des différences de traitement entre les sexes. Et en particulier que la question de tradition, d'opinion publique ne suffisent pas à justifier des différences de traitement. Parce que l'un des buts fondamentaux du Conseil de l'Europe, c'est de mettre en place une égalité des sexes. Voilà pour cette introduction. Je dois aller très vite parce que nous aurons à peu près quelque chose comme 20 minutes par cas, Madame la Présidente. Dans la partie, donc, 1, présentation, 2, discussion, je présenterai très brièvement, et puis 3, des questions. 20 à 25 minutes, et nous devons absolument, le régime de Sciences Po est en train de changer, encore plus strict, nous devons avoir quitté la salle à 20h, avant 20h, hein, parce que c'est un nouveau système. Un seul regret, je suis très content bien sûr de mes collègues, je vous le redis à tous, je n'ai pas pu aboutir à une stricte égalité des sexes dans la conférence. Hein, j'ai demandé, mais je n'ai pas trouvé. Madame la Présidente.